Le printemps arrive. Le potager de Joseph commence à fleurir. Le soleil est là. Le mois de mars démarre tout en douceur. Johan a pu reprendre le travail. Les nausées sont passées. La fatigue aussi. Maintenant, elle a un ventre rond. Un tout petit ventre rond. Léon et elle sont allés à leur premier rendez-vous à l'hôpital et ils ont pu voir le bébé sur le petit écran. C'est un garçon. Johan en est à 4 mois et demi. Le médecin a dit que tout allait bien, qu'elle ne devait pas trop forcer au travail, mais qu'elle pouvait reprendre à temps plein. Elle est contente. Elle a trouvé le temps long ces dernières semaines, même si elle a eu tout le temps de se plonger dans le livre de Joseph et Léon, celui des traditions du monde autour de la grossesse. D'ailleurs, au milieu des rites, tous plus loufoques les uns que les autres, elle a repéré une ou deux idées qui lui ont parlé. Comme cette pratique africaine qui consiste à s'attacher un pagne autour du ventre nuit et jour, pendant toute la grossesse, afin que le tissu s'imprègne pleinement de l'odeur de la maman. À sa naissance et pendant ses premiers jours, le bébé est ensuite emmailloté dans le pagne, retrouvant l'odeur de sa mère. Dès qu'elle a retrouvé la forme, elle est allée acheter un joli tissu orange vif. Elle y est allée à pied, en profitant pour flâner dans les ruelles. Léon a eu l'air inquiet quand il l'a appris, démesurément inquiet, et elle lui a assuré que tout allait bien, qu'elle était encore largement autorisée à marcher. Le temps est doux. L'air marin s'infiltre dans chacune des ruelles de Saint-Suliac. Joanne songe qu'elle a hâte de faire un pique-nique sur la plage. En août, quand le bébé sera là, ils pourront y aller tous les quatre. Le marché n'est pas très peuplé en cet après-midi pourtant printanier. Alors que Joseph part à la recherche de carottes, Joanne se laisse porter vers le stand d'un fleuriste. Les roses sont merveilleuses, d'un beau rose, d'un jaune profond et même quelques-unes d'un blanc pur. Elle les regarde avec émerveillement quand la vendeuse, derrière son étal, lui tend un bouquet de 3 roses. « Pour moi ?» demande-t-elle timidement. La vendeuse acquiesce. C'est une dame au visage sympathique, avec de jolis yeux verts et des cheveux gris noués en chignon.
« Oui, c'est pour vous et votre bébé. »
La dame désigne son ventre en souriant.
« Ah, oh, c'est gentil. »«
Il est attendu pour quand ?» demande la dame.
« Pour août. »
Elles sont soudain interrompues par un bocal de verre qui chute au sol et se brise à quelques centimètres des pieds de Joanne. Elles sursautent toutes les deux. Joanne lève la tête vers la maladroite qui vient de laisser échapper son bocal et elle se trouve nez à nez avec Madame André. Une Madame André figée, les bras tombants, le visage défiguré par une expression d'horreur sans nom. Joanne sent son estomac se contracter, sa gorge se serrer. Elle entend à peine la vendeuse qui s'adresse à Madame André.
Bah alors, ma petite dame, il faut pas vous en faire, ça arrive. Attendez, je vais vous aider à ramasser.
Madame André reste figée. Elle est pâle. Son regard passe du visage de Joanne à son ventre, comme si elle ne pouvait croire ce qu'elle voit. Et Joanne ne peut que constater la terrible vérité. Madame André ne savait pas. Léon n'a rien dit. Malgré ce qu'il prétend depuis 2 mois, Léon n'a pas osé avouer à sa mère qu'il attendait un enfant de la petite bâtarde. Et Joanne ne sait plus alors ce qui est le pire. La situation, l'expression de dégoût sur le visage de Madame André ou la sensation de trahison.
« Ça ne peut pas être vrai !»
murmure Madame André en portant sa main à son front. Elle semble sur le point de s'évanouir et la vendeuse qui a fait le tour de son stand vient la soutenir.
Tout va bien, madame? Vous faites un malaise?
Madame André murmure très vite entre ses lèvres, sans lâcher Joanne du regard.
C'est pas possible. Il n'a pas pu nous faire ça. Fricoter, d'accord, mais lui faire un enfant? Il est devenu fou. Il n'a pas pu.
Joanne est incapable de faire un geste. Elle a l'impression de se décomposer sur place. Elle voudrait disparaître, se sauver très vite, mais elle est incapable de bouger. Le mépris de Madame André la paralyse. La vendeuse se tourne vers elle.
« Vous la connaissez ?» demande-t-elle en lui désignant Madame André.
Joanne a une boule énorme dans sa gorge. Elle secoue la tête, déglutit.
« Non. »
Elle essaie de se remettre en mouvement. Elle se baisse lentement, glisse le bouquet de roses dans son panier, cherche son père du regard dans la foule.
« Léon n'a rien dit. »
Elle murmure à la vendeuse.
« Merci pour le bouquet. Au revoir. »
Et la phrase revient.
« Léon n'a rien dit. Léon a honte. »
Elle revoit sa gêne chaque fois qu'elle a abordé le sujet avec lui.
« Tu leur as dit ?»«
Oui. »
« Comment ils ont réagi ?»«
Bah, normalement. »
« Tu veux dire qu'ils sont contents ?»«
Ouais, ouais, ils sont contents. »
Il ne s'étendait pas sur le sujet, il passait vite à autre chose. Elle pensait qu'il voulait éviter de lui répéter les horreurs que ses parents avaient dites sur elle, car ce devait être le cas. Il continuait de partir dîner seul chaque lundi soir. Mais elle se trompait. La réalité était encore plus affreuse. Il n'avait rien dit. Son ventre s'arrondissait. Ils avaient eu leur première échographie et ils n'avaient rien dit. Il avait continué de cacher ce bébé à ses parents.
Joe, ça va ?
Joseph l'observe curieusement quand elle le rejoint. Elle a envie de pleurer. Elle a très chaud et très froid en même temps. Elle a envie de vomir aussi. Elle se sent triste comme elle s'est rarement sentie aussi triste.
Joe, qu'est-ce qui se passe ?
Elle pose ses mains sur son ventre comme pour protéger le bébé de toute cette horreur, de toute cette méchanceté et de tout ce mépris. Elle ne veut pas que ça l'atteigne. Elle retient avec difficulté ses larmes. Joseph ne comprend pas. Il scrute autour de lui. Il scrute la petite allée de laquelle elle revient. Il aperçoit Madame André, soutenue par la vendeuse et un autre commerçant. Elle semble sur le point de s'évanouir. Le commerçant l'oblige à boire un verre d'eau. Joseph se redresse avec colère.
Qu'est-ce qu'elle t'a fait ?
Il retrousse ses manches, répète avec colère.
Joe, on va pas la laisser te traiter comme ça. On laissera personne te traiter comme ça.
Il est prêt à y aller, il est remonté, mais elle le retient par un pan de sa chemise.
C'est pas elle,
dit-elle faiblement. Joseph s'arrête brusquement et se retourne. Il ne comprend pas.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Elle ne savait rien.
Ils ne disent pas un mot en remontant les allées de Saint-Suliac d'un pas énergique. Joseph a le visage dur et déterminé. Joanne est encore bouleversée. Ses mains sont toujours posées sur son ventre et elle marche vite, très vite. Joseph la laissera faire ce qu'elle veut, elle le sait. Il la soutiendra jusqu'au bout et ensuite, quand elle se retrouvera toute seule dans sa chambre, inondée de larmes, il viendra la consoler. Léon est penché au-dessus de ses copies dans le salon. Il sourit en les entendant arriver.
Ça va ?
Joseph s'est aussitôt éclipsé dans la cuisine. Il ne reste que Joanne, frêle et blanche, se cramponnant à la table.
Ça va ?
Répète-t-il. Elle se met à pleurer. Tout à l'heure sur le marché, elle a réussi à retenir ses larmes, mais maintenant, face à Léon, c'est trop difficile. Elle aimerait ne pas avoir à détester ce visage qu'elle aime sincèrement. Mais il n'a rien dit. Il a préféré cacher la grossesse.
Joe, qu'est-ce qui t'arrive ?
Il se lève et s'approche pour la prendre dans ses bras, mais elle l'en empêche. Elle recule d'un pas. Étrangement, sa voix est parfaitement claire quand elle parle.
J'ai croisé ta mère sur le marché.
Elle voit à son expression qu'il sait exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, lui revient tout à coup son inquiétude excessive il y a quelques semaines, quand elle lui a dit avoir été en ville acheter le pagne. Ça n'était pas sa santé qui le préoccupait, pas plus que celle du bébé. C'était sa mère qu'il avait cherché à préserver en la mettant à distance de la grossesse, de ce bébé de la honte.
« Quels étaient tes plans ? »
poursuit-elle, car Léon semble incapable de parler.
« Je... »
Il rougit. Il baisse la tête comme un enfant. Elle ignore les larmes sur son visage et continue d'une voix claire.
Tu comptais le cacher encore quand il serait né ?
Léon secoue la tête. Il tente de bafouiller.
J'allais leur dire...
Mais elle l'interrompt.
Je ne veux pas de ça.
Quoi ?
Ses yeux écarquillés de petit garçon lui font de la peine, mais pas suffisamment pour qu'elle s'interrompe.
Je ne veux pas de ça pour mon enfant. Je ne veux pas d'un père qui ait honte de lui, tellement honte qu'il préfère le cacher.
Je ne l'aurais pas fait. Tu le sais.
Je ne veux pas d'un père qui soit incapable de le défendre contre le mépris des autres.
Joe,
tu as toujours été lâche et faible, mais peu importait. Ça n'était que moi. J'étais bien assez forte pour faire face.
Joe,
il n'y a pas de place pour la honte ici. Papa et moi t'avons accueilli les bras ouverts. Je veux que tu t'en ailles.
La stupeur et l'horreur se dessinent sur le visage de Léon.
Quoi ?
Il tente de se cramponner à la table. Il tente de parler, de dire quelque chose, mais l'émotion l'en empêche.
Joanne répète, parfaitement calme. Je veux que tu quittes la maison.
Non, Jo, non, tu peux pas.
Il pleure maintenant, et elle aussi. Mais elle tient bon. Elle est calme malgré les pleurs.
J'en prendrai soin. T'as pas à t'inquiéter. J'ai assez d'amour. Je pourrai l'aimer pour deux, on s'en sortira.
Il tente de la gripper, de se raccrocher à elle, mais elle s'éloigne. Elle rejoint la cuisine où Joseph s'est réfugié. Elle sait qu'il saura dire ce qu'il faut, ou justement ne rien dire, mais il sera à ses côtés. Depuis la cuisine, ils entendent les pleurs de Léon. Joseph n'a rien dit. Il se contente de rester près d'elle. Son visage est fermé, inexpressif, comme un gros roc imperturbable.
Joseph !
C'est la voix désespérée de Léon qui a réussi à se traîner du salon jusqu'à la porte de la cuisine. Il est sur le seuil, le visage ravagé de larmes. Il ne s'adresse plus à Joanne, mais à son père. Il cherche de l'aide au fond de ses yeux.
Joseph, dites-lui qu'elle se trompe. Dites-lui qu'elle fait une bêtise. Elle ne peut pas me demander de partir.
Mais le visage de Joseph est dur. Joanne ne l'a jamais vu aussi froid et en colère.
Joanne ne reçoit d'ordre de personne. Elle est la mieux placée pour savoir ce qu'il convient de faire pour elle et pour son enfant. Je suis désolé, Léon.
Il semble recevoir une gifle en plein visage. Les pleurs se poursuivent une bonne heure. Jusqu'à ce que Léon quitte la maison, encore incrédule, encore sous le choc, un gros sac sur son épaule. Le soir, Joanne ressort ses vieux livres d'enfant du bas de son étagère. Puis elle s'installe dans la véranda, à la lueur d'une vieille lampe à pétrole, et elle entame la lecture d'une voix douce et fluette. Elle lit, et elle lit encore, pour elle et pour le futur petit homme.
Il y avait un homme, mais peut-être était-ce une femme ou un enfant, qui traversait le désert. Oui, le désert à pied. Et il pleurait sans cesse, régulièrement, parfois doucement et parfois fort, mais sans jamais s'arrêter. Il pleurait au rythme de ses pas dans le sable. Un jour, dans le grand désert, il croise un oiseau qui lui demande « Que fais-tu seul dans le désert ?»« Je marche et je pleure. » Et une grosse larme tombe de son œil qu'il ramasse aussitôt. « Pourquoi es-tu si triste ?»« Je ne suis pas triste. » « Alors pourquoi pleures-tu ?»« Regarde, mes larmes deviennent des perles, » dit-il en saisissant la larme lisse et brillante. « J'en ai des milliers dans les poches. Veux-tu les voir ?»« Oui, oui !» L'homme plonge la main dans sa poche gonflée et en ressort une poignée scintillante. « Comme elles sont belles !»« Choisis-en une si tu veux. » « C'est pour cela que tu ne t'arrêtes jamais de pleurer, pour avoir de plus en plus de perles ?»« Exactement. Allez, choisis. »« Je veux bien celle-ci. C'est la plus grosse, mais c'est la plus brillante. »« Tu as bien choisi. Adieu. »« Adieu. » L'oiseau saisit dans son bec la perle devenue trésor et s'éloigne, léger, rapide, tandis que celui qui pleure reprend de plus belle ses gémissements et sa marche lente. Plus loin, l'oiseau se pose et contemple la larme précieuse. Il se dit qu'il aimerait en avoir d'autres, oh, pas énormément, juste quelques-unes comme cadeau pour d'autres voyageurs ailés. Alors il rebrousse chemin vers celui qu'il a laissé, l'homme qui pleure,
et le voit de loin peiné, alourdi par ses deux énormes poches emplies de perles. Bientôt, il ne peut plus mettre un pied devant l'autre. Il tombe à genoux, se traîne encore, et pourtant, malgré tout, il continue à pleurer et à recueillir ses larmes perles qu'il met dans ses poches. Mais arrête de pleurer, ce sont tes larmes qui t'empêchent d'avancer.
Je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas.
Et deux grosses larmes tombent qu'il ramasse.
Pourtant, je suis épuisé, mais j'ai trop pris l'habitude, je ne peux pas m'arrêter, non.
Soudain, l'oiseau, d'un coup de bec vif et acéré, fait une petite entaille dans la poche de l'homme qui pleure, puis dans l'autre poche. Crac ! Une autre entaille. Il aide l'homme à se relever, à marcher à nouveau, debout. De son chant et de ses ailes, il l'encourage. Alors, des poches trouées, une perle tombe, puis une autre. Deux filets de perles sur le sable brûlant dessinent un chemin. Au fur et à mesure qu'il avance, l'homme est de plus en plus léger. Au fur et à mesure que ses poches se vident, traçant une route lumineuse, la source de ses larmes s'apaise et se tarit. Et quand ses poches sont enfin vides, alors ses yeux sont enfin secs, son cœur à nouveau au bonheur et son pied si léger qu'il s'envole avec l'oiseau. Parfois, dans le grand désert, on peut voir un chemin de perles qui ne mène nulle part. Et si on lève le regard, on peut voir auprès d'un oiseau planer un homme. Mais peut-être est-ce une femme ou un enfant, qui sait? Elle met quelques secondes à comprendre d'où vient le remue-ménage autour d'elle. Les voix d'hommes. Il lui faut du temps pour se resituer à As, dans le domaine d'Hippolyte, et plus précisément dans la petite cuisine de l'annexe. Elle revient à elle au moment où Émile se plante devant elle, dans son manteau noir, ses cheveux bruns parsemés de neige. Elle reste figée, incrédule. Elle ne sait plus s'il est réellement parti ou si elle a rêvé qu'il était parti.
« T'en fais une tête !» dit-il en lui souriant.
Elle n'arrive pas à produire de son. Il se laisse tomber à côté d'elle à la petite table.
« T'as pas eu mon mot ?»«
Hein ?»«
Le mot, sur la table de chevet. »
Elle secoue la tête. Elle n'a même pas songé à regarder sur sa table de chevet.
« Je te disais que je serais rentré à midi, que j'étais juste parti poster une lettre. »
Elle doit encore avoir l'air déboussolée, car il sourit en passant une main sur son genou, discrètement, sous la table, comme pour lui dire « Tout va bien, je suis rentré. » Elle prend alors seulement conscience qu'Albin est installé à table en face d'elle et qu'il lui a servi son assiette. Elle s'aperçoit également qu'elle respire mieux et qu'elle a faim tout à coup. Elle lui jette encore un regard avant de saisir sa fourchette. Un dernier regard pour s'assurer qu'il est bien là, qu'elle n'a pas rêvé, qu'il est revenu. Puis elle se jette littéralement sur sa bouillie de petits légumes. Bon sang, ce qu'elle a faim.
T'es allé où ?
À Pau.
Il parle la bouche pleine, sans se soucier d'Albin, qui est de toute façon plongé dans la lecture d'un journal.
C'était...
Elle hésite.
C'était pour tes parents, cette lettre ?
Il hoche la tête en continuant de manger.
« Ouais, quelques instructions. »
Elle songe qu'il doit s'agir de la décision qu'il a prise l'autre jour, celle de se faire incinérer. Alors elle n'insiste pas davantage. Mais quelques minutes plus tard, alors qu'Albin quitte la table, elle demande.
« Tu te souviens de ce qui s'est passé hier soir ?»«
Hein ?»
Il continue à manger, ne fixant que son assiette.
« Sur le chantier. »
Il attrape un verre d'eau et déglutit avant de boire.
Ah, Hippolyte et Albin ont dit que j'avais dû faire une chute. Apparemment, t'as pas voulu m'amener chez le médecin.
Elle le scrute avec attention pour voir s'il plaisante, mais il a l'air tout à fait sérieux.
Tu ne te souviens pas ?
Insiste-t-elle.
Non.
Non ?
Il se tourne vers elle et secoue enfin la tête.
Non. C'est de pire en pire en ce moment. Ça s'accélère.
Comment ça ?
J'ai des trous. Je sais pas toujours ce que j'ai fait la veille ou quel jour on est.
Ils essaient l'un et l'autre de faire comme s'ils ne s'en formalisaient pas, comme si c'était normal, comme s'ils prenaient la chose avec légèreté. Ils se remettent à manger, mais Johan intervient encore quelques minutes plus tard.
« Tu m'as prise pour quelqu'un d'autre ? Je crois que tu m'as prise pour Laura. »
Elle voit ses sourcils se froncer, même s'il s'obstine à garder les yeux rivés sur son assiette.
« Est-ce que j'ai rien fait d'embêtant ou de mal ?»
Elle hausse les épaules.
« Tu étais très en colère contre moi. »
Elle ne s'attend pas à le voir rire, d'un rire nerveux au-dessus de son assiette.
« Ça m'étonne pas !»
Elle le regarde sans comprendre.
« Ah ?»
Il répond en riant toujours.
« C'était une sacrée emmerdeuse. Elle avait un don exceptionnel pour me mettre en colère. Tu l'aurais pas aimé, je crois. »
Johan se met à sourire, elle aussi, un peu timidement.
« Ah non ?»
Elle était insolente et provocante. Elle a jamais vraiment plu à mes parents, ni à ma sœur.
Il est surpris d'évoquer Laura avec autant de légèreté, d'en rire et de voir Johan sourire en retour. Sa surprise grandit encore quand il la voit reposer sa fourchette et déclarer un sourire au fond des yeux.
« Léon était un fils à papa qui manquait cruellement de courage. Tu l'aurais pas aimé non plus. »
Il en perd ses mots et son sourire se fige un instant. Elle n'a jamais parlé de Léon, jamais d'elle-même. Et quand elle y était forcée, elle avait le ton grave et douloureux. Mais pas aujourd'hui. Il tente de se reprendre très vite pour ne pas laisser s'installer de malaise.
« Tu vois, on n'est pas si mal tous les deux. »
Elle acquiesce avec les yeux qui brillent.